Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous écoutez 6ème Science. L'espace, mais qui ça fait pas rêver sérieusement? Voir la Terre pas plus grosse qu'une bille, gober une bulle d'eau en apesanteur ou carrément reposer le pied sur la Lune dans l'espoir un jour d'atteindre Mars. Alors qu'il y a 30 ans, plus personne ne regardait en l'air, aujourd'hui c'est tout le contraire. L'espace fait de nouveau envie. Au point que certains millionnaires sont prêts à cramer leurs cartes ultra black métallisées pour se payer une virée en orbite. Mais que ce soit pour catapulter des satellites, des richoux en manque d'aventure, des astronautes ou encore des robots, ce qui crame au passage, c'est le bilan carbone de l'industrie spatiale. Alors oui, on est encore très loin de la note laissée par l'aviation, responsable à elle seule d'à peu près 5% de l'impact climatique mondial. Seulement, à l'allure où vont les choses, chaque jour verra bientôt une fusée décoller. Et on parle pas de Twingo tournant à l'hydrogène. Avec ses 33 moteurs, Starship, un lanceur haut de 120 mètres pour 5000 tonnes sur la balance, brûle à lui seul 1200 tonnes de méthane liquide par vol. À quel prix? La réalité doit-elle se rapprocher du rêve? Peut-on concilier activité spatiale et préservation de la planète? C'est la double question dont nous allons nous emparer aujourd'hui avec Fanny Coste, autrice d'un dossier dans Science et Avenir et dont je vous partage le titre, Le délicat bilan carbone de l'industrie spatiale. Délicat, c'est le moins qu'on puisse dire. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Bon, on n'est pas là pour compter les marmottes aujourd'hui. Hein. Notre objectif sur cet épisode, c'est de dresser l'addition. C'est pourquoi, Fanny, j'ai une question pour toi et elle est ultra simple. Quel est l'impact du spatial aujourd'hui, en 2024?
Alors, question pas simple. En soi, l'impact du spatial, il n'est vraiment pas significatif. Mais c'est vrai qu'on connaît très peu de choses de cet impact écologique. On a quand même une étude qui date de 2022 qui nous dit que l'industrie spatiale aurait des émissions estimées autour de 6 millions de tonnes équivalent CO2. C'est pas grand-chose si on regarde l'industrie de l'aviation, par exemple, où les émissions sont étudiées et évaluées entre 1,5 milliard et 3 milliards de tonnes équivalent CO2. Mais l'évaluation pour le spatial, elle prend pas en compte plein de choses, on en parlera ensuite. Certaines émissions des particules qui sont émises ailleurs qu'au sol, et ça pose une grande problématique. Ensuite, l'impact du spatial, il n'a pas du tout été pris en compte depuis des années ou très peu. C'est dire, par exemple, pour la COP21, un événement un peu international, aucune mention du spatial n'a été faite. Et dans la stratégie nationale bas carbone de la France, aucune mention de l'industrie spatiale non plus. Pourtant, on est quand même parmi les artisans d'Ariane. Bon, passons le sujet.
Ça le fait pas, hein, ça le fait pas.
Non, ça le fait pas. Néanmoins, il y a quand même des chercheurs un petit peu intéressés et puis investis sur le sujet écologique qui se sont penchés sur l'impact du spatial et qui sont allés voir un petit peu plus loin. Et il y a pas mal de choses qui commencent à sortir et c'est ça qui fait aussi qu'on en parle peut-être un peu plus aujourd'hui. Mais du côté des constructeurs, en revanche, il n'y a pas de grands travaux qui ont été menés ou en tout cas dans le plus grand secret. On n'est pas très au courant, sauf le groupe Ariane, citons-le, qui a publié son bilan carbone pour Ariane 6. Mais là encore, il y a des manques et on va les soulever un peu plus tard.
Bon, on va pas comparer des vessies avec des lanternes. En l'occurrence, l'automobile et les fusées. L'impact du spatial doit être mesuré à son cousin direct, à savoir l'aviation. Mais de quel ordre est cette comparaison? Qu'est-ce qu'on compare vraiment?
Alors, il y a des limites quand même. Hein. Il faut bien savoir que quand on parle d'aviation, on parle d'émissions dans la troposphère, c'est-à-dire la couche de l'atmosphère où nous on vit, jusqu'à à peu près 12 000 mètres d'altitude. Ça, c'est OK. Une fusée, elle aussi, va émettre dans la troposphère puisqu'elle part du sol, mais en revanche, elle va aussi émettre plus haut, dans la stratosphère. Et donc, elle va émettre dans toutes les couches de l'atmosphère. Donc, c'est là la limitation de la comparaison. Mais comparons. Si on prend en compte l'impact du spatial aujourd'hui, il est calculé à 0,01% des émissions mondiales, alors que l'aviation, c'est entre 4 et 5% des émissions mondiales. C'est beaucoup plus, quand même. Mais si on en vient, justement, et comme le suggèrent tous les chercheurs investis sur la question, à prendre en compte les émissions du spatial dans la haute atmosphère, donc dans les hautes couches, tout là-haut, entre 12 000 et 50 000 mètres, là, on arrive à 0,4 ou 0,5% des émissions planétaires, soit 10% de celles de l'aviation, en gros. Ça peut sembler peu, Certes, c'est un ordre de grandeur qui reste encore assez minime, mais ces premières analyses-là, elles ont été faites sur une base de 100 lancements par an. 100 lancements par an, c'est ce qu'on avait avant les années 2020. Aujourd'hui, on est déjà passé à plus de 200 et les projections, elles vont à plus de 1000. Donc, il faut imaginer quand même la différence. Ensuite, il faut aussi revoir un peu le rapport de force. Aujourd'hui, on a 35 à 40 millions d'avions qui volent par an et on a combien de lancements de fusées ?
Là, c'est le moment où je sors ma carte joker. Alors, on n'en est pas encore là, mais tu citais quand même des chiffres assez importants. Aujourd'hui et peut-être demain pour les lancements de fusées, mon joker, tout le monde le connaît, c'est Elon Musk. Parce qu'avec la société SpaceX, qui est devenue en gros le prestataire numéro un de la NASA et de l'armée américaine, on se dit que ça va forcément grimper en flèche et la trajectoire même de cette flèche, donc vers le haut, elle ne fait que s'accentuer. Est-ce que tout ça, donc cette passion pour le spatial, ce réengouement et cette envie d'aller poser du satellite pour le réseau Internet Starlink, là encore d'Elon Musk, est-ce que tout ça, c'est pas de la faute de notre entrepreneur sud-africain et américain ?
On va en reparler, mais en effet, le nombre de lancements déjà augmente, ça très rapidement depuis 2020, et il va considérablement augmenter dans les 15-20 prochaines années si on regarde les projets, en effet, de lancement de méga-constellations comme Starlink. Ça, c'est un énorme projet, hein, c'est 40 000 satellites en vue. On ne parle même pas du projet de méga-constellation chinois, je ne me souviens plus comment il s'appelle, et puis encore au moins 3 ou 4 autres projets. Ça nous amène très très loin en termes de satellites au-dessus de nos têtes. Et même si les lanceurs de fusées demain pourront embarquer plus de satellites à bord, ça veut dire quand même qu'on peut arriver à un nombre de lancements énorme. Et dans tout ça, oui, Elon Musk est tout à fait responsable, puisque sur la simple année 2023, on a eu 210 lancements, si je ne me trompe pas, environ. 96 lancements sont dus à Elon Musk et à sa Falcon 9. On a à peu près les proportions.
Ce n'est pas un petit joker hein, qu'on lance. Dans ton dossier, il y a une infographie qui montre qu'il pourrait y avoir 70 000 satellites au-dessus de nos têtes dans 10 ans. Donc, on peut se dire que, effectivement, dans l'espace, ce n'est pas l'espace qui manque. Seulement, l'UCS, autrement dit l'Union des scientifiques préoccupés, j'adore, hein, en comptait presque 8 000 au 1er mai 2023, dont, attention, plus de 5 000 portant pavillon américain, dont là encore des satellites portant non pas le pavillon américain, mais aussi la mention Starlink. Hein, Elon, t'es encore là. Je veux bien, tu le disais tout à l'heure, qu'on puisse caler de plus en plus de satellites dans un lanceur. Hein. On peut aller jusqu'à 100, je crois. Mais à quoi rime cette course, finalement, vers le haut, vers l'espace, vers la constitution de constellations de satellites ?
Alors, Romain, je ne suis pas sûre d'avoir exactement la réponse, mais j'ai quand même une supposition ou deux. Je pense que cette course à la propulsion, c'est principalement lié à la course au numérique sur Terre, à la croissance des usages du numérique dans le monde. Et SpaceX se fait passer pour un gentil, pour l'entreprise qui va apporter le haut débit à tout le monde partout sur la Terre. Et donc, c'est comme ça qu'il justifie notamment la méga constellation Starlink. Mais en fait, est-ce que ça ne va pas tout simplement permettre à ceux qui utilisent déjà en force la 5G ou des usages intensifs du numérique, notamment pour le jeu vidéo par exemple, de plus s'amuser plutôt qu'à des gens un peu perdus sur un territoire africain d'utiliser Internet. Enfin voilà, je pense qu'il faut un petit peu rétablir aussi des vérités.
Et tout à l'heure, je parlais de la série For All Mankind sur Apple+. Il y a une autre série, je crois, Constellation, qui sort au mois de février. Donc là, on enregistre le 7 février, toujours sur Apple+. J'ai quand même l'impression que l'exploration spatiale en elle-même est redevenue trendy. On se remet à rêver de remettre le pied sur la Lune, mais aussi sur Mars. Est-ce que là encore, c'est de la faute de Elon ?
Bon, là, pour le coup, je suis pas sûr que ce soit que la faute de Elon Musk. Peut-être que des récentes mises en lumière de spationautes, notamment français, on voit à qui on pense, ont fait que le rêve est revenu. Et je pense surtout que le petit côté coup de panique réchauffement climatique fait qu'on se projette peut-être plus facilement ailleurs que sur la Terre, alors qu'en fait, il faudrait s'y projeter mieux.
On détourne les yeux, c'est ça que tu es en train de nous dire?
Je pense que c'est ça.
Ok, très clair. On va essayer de garder la tête positive, hein, un bon mindset. Je ne sais pas si on peut parler de bons élèves, mais on a le bilan carbone d'une fusée Ariane 6 tout à l'heure. Hein, tu disais que le constructeur européen faisait office là d'exemple. Et ce qui saute aux yeux, c'est qu'on n'est pas sur une voiture solaire, hein, si on regarde le bilan. La production des ergols, autrement dit, c'est des mélanges qui permettent au réacteur de la fusée de tourner. Et le transport de ces ergols jusqu'au centre spatial guyanais, rien que la production et le transport du carburant et du comburant représentent 46% de l'empreinte carbone de la fusée, quasiment la moitié. Alors que la combustion de ces ergols pour le décollage ne représente qu'un tout petit pourcent. Comment cet écart est-il possible ?
Alors en fait, c'est plutôt assez logique là pour le coup, parce que quand on parle de produire les ergols, on parle d'extraction et de transformation. Ça demande énormément d'énergie, c'est vraiment très très énergivore, c'est énorme. Enfin, faut penser par exemple à l'exploitation d'un puits de pétrole, Et puis l'impact du transport, on le connaît, et jusqu'au centre spatial guyanais, on voit un petit peu que c'est pas forcément si accessible que ça, donc ça demande peut-être aussi plusieurs modes de transport, ça doit être pris en compte, j'imagine. Concernant la combustion, je suis un peu moins étonnée qu'on parle d'une combustion qui compte que pour 1% du bilan carbone de l'Ariane 6, parce qu'on parle d'hydrogène là. Là, on est sur une Ariane 6 qui part avec un gros départ à l'hydrogène, et donc forcément l'impact est moindre. Et puis ensuite, on parle que d'une seule fusée, alors que sinon, on parle quand même d'un impact, je pense, sur le cycle de vie. Donc à mon avis, les ergols, c'est pas que pour la production d'une fusée, ou alors je me trompe. J'avoue ne pas trop savoir.
La vraie surprise dans les chiffres que tu donnes dans ton dossier, c'est plutôt à la seconde place que je suis allé la trouver, puisque la production du super combo, hein, donc j'ai dit carburant-comburant qui font la réaction qui permet à la fusée de décoller, c'est pas tant la production de la fusée hein, qui rejette le plus d'équivalent CO2, mais c'est les activités au sol. On a dit le carburant, le comburant d'un côté, 46%, et ensuite les activités au sol, avec dans le rôle du coupable, quasiment hein, pris la main dans le pot de confiture, c'est la clim. 30% du total dans la production d'une fusée aérienne, c'est la climatisation. Et c'est là qu'on se rappelle que oui, on travaille en Guyane et qu'il doit faire un petit peu chaud.
Les 30%, c'est pas que la clim, c'est l'électricité au sol, dont la clim. Et en effet, la clim doit compter pour beaucoup. Et c'est vrai que c'est parce qu'on est en Guyane, mais pas seulement. En fait, pour mettre les fusées, mais aussi les satellites dans les conditions de l'espace, il y a plein de tests qui sont nécessaires. C'est d'immenses engins, hein, donc il faut imaginer des grandes, grandes salles blanches qui doivent être certes climatisées, mais qui doivent aussi avoir une hygrométrie très particulière, avoir une qualité de l'air très particulière. Donc, c'est très testé et contrôlé. Et ça, c'est très, très énergivore.
Parmi les autres chiffres que tu donnes, il y a 21%. On arrête après ça avec la dissection du bilan carbone d'Ariane 6. Mais il y a 21% de l'empreinte carbone qui est due à la fabrication. Donc voilà, ça, c'est le point auquel on pense tous en premier. Et à l'assemblage, hein, également des structures en Europe. Plus 2% qui sont là plutôt associés aux tests et aux transports. Donc là-dessus, pareil, pas trop de surprises. Hein.
Non, très peu de surprises. Ça, pour le coup, c'est assez logique. On va dire que si on regarde des processus industriels habituels, on retrouve à peu près ces proportions-là.
Tout à l'heure, on parlait de comment mesurer l'impact d'une fusée. Là, en l'occurrence, on parlait d'une Ariane 6, mais ça peut être une Falcon 9 hein, de Elon. C'est à peu près le même procédé que pour une voiture électrique. Hein. On prend l'impact des différentes phases de vie d'un produit, de sa fabrication à son recyclage ou à sa fin, hein, si jamais elle explose ou qu'elle s'écrase en mer. Le souci, et ça tu le soulignes très bien dans ton dossier, c'est qu'on a des fusées qui mangent des ergols, encore, mélange de carburant et de comburant, très différents d'une fusée à l'autre.
Oui, complètement. En fait, les propulseurs puis les différents étages des lanceurs, ils peuvent aujourd'hui embarquer soit ce qu'on appelle des ergols solides, c'est des sortes de blocs de poudre. Ça peut aussi embarquer de l'hydrogène. Donc ça, tout ça, c'est le cas par exemple pour Ariane. Mais sinon, ça embarque très souvent du kérosène ou des dérivés de kérosène. Et puis, ça peut embarquer aussi du méthane ou de l'oxygène. Tout ça, bah, ça peut produire plein d'émissions très différentes. Donc, c'est encore plus difficile à calculer. Et puis surtout, l'impact peut être à la fois dissipé et puis augmenté finalement à chaque fois. Donc, faut bien l'avoir en tête aussi. Hein. C'est un calcul qui n'est pas simple.
Et ce calcul-là, il est encore moins simple que, comme tu le disais tout à l'heure, l'impact de la pollution générée par la fusée, il est multicouche. Il se fait au départ dans la troposphère, donc la zone qu'on habite et qui est aussi celle dans laquelle circulent les avions. Mais ensuite, elle se fait couche par couche au-dessus. Et de ce que j'en lisais toujours dans ton article, hein, auquel je fais beaucoup référence, les particules rejetées à haute altitude exercent un pouvoir réchauffant pendant des mois, voire plus que des mois, au lieu de quelques jours si elles avaient été relâchées au sol.
Oui, alors ça, pour moi, c'est le plus important à comprendre dans cette enquête. C'est majeur parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas bien pourquoi on a mal calculé l'impact écologique du spatial ou pourquoi on ne l'a pas assez calculé et il va falloir s'y mettre. En fait, le CO2, par exemple, c'est un gaz à effet de serre à très longue durée de vie partout, que ce soit dans la troposphère, au sol, un peu plus haut, très très en haut. Il est à longue durée de vie, il a le même effet, on sait le calculer. OK. Mais il y a d'autres particules, d'autres émissions qui n'ont pas du tout les mêmes effets selon l'endroit où elles sont émises. Et par exemple, les fusées, elles peuvent émettre soit des particules de suie, ou alors ce qu'on appelle black carbon ou carbone noir, soit des particules d'aluminium, qui sont des particules oxydées d'aluminium, si je ne me trompe pas. Quand elles sont émises au sol, ce qui arrive quand elles partent hein, depuis le sol, ça ne dure que quelques jours, 2, 3, 4 jours, peut-être une semaine. Ça n'a pas le temps d'exercer son pouvoir réchauffant sur l'atmosphère. Mais en revanche, quand elles arrivent tout là-haut, dans la stratosphère, la plus haute couche de l'atmosphère, elles peuvent rester plusieurs années, entre 3 et 5 ans. Ce qui laisse beaucoup, beaucoup de temps à ces particules pour émettre leur pouvoir réchauffant. Et ça, c'est très important à comprendre.
Ce qui nous amène à un terme que j'ai encore découvert en te lisant, c'est celui du forçage radiatif. Est-ce que tu peux éclairer ma lanterne sur ce terme, s'il te plaît ?
Alors, ce concept, je l'ai moi-même découvert hein, en faisant l'enquête. Et en fait, on devrait vraiment l'adopter pour mieux comprendre le réchauffement climatique, presque plus que ces fameuses tonnes équivalent CO2 qui sont devenues très courantes, puis finalement, on ne comprend pas grand-chose. Alors, le forçage radiatif, c'est quoi? Ça permet de calculer, de mesurer la perturbation de l'équilibre entre la puissance des radiations qui rentrent dans l'atmosphère et celles qui ressortent de l'atmosphère. Quand elles rentrent dans l'atmosphère et qu'elles y restent, ça crée un réchauffement. Quand elles ressortent, ça refroidit. Normalement, il y a un équilibre. Et certaines particules sont capables d'absorber ces radiations, de les garder, et donc elles restent dans l'atmosphère, et de créer un réchauffement. À l'inverse, d'autres altèrent les radiations et leur permettent de ressortir plus rapidement et créer un refroidissement. Mais pour les suies et les particules d'alumine, on a quasiment la certitude, il y a encore des études quand même à mener et des recherches, qu'elles absorbent ces fameuses radiations et qu'elles restent ainsi dans l'atmosphère. On dit alors que ces particules ont un forçage radiatif positif. Elles provoquent donc un réchauffement climatique.
Bon, c'était l'instant réchauffement. J'ouvre une autre parenthèse. Est-ce qu'on sait si le spatial contribue au trou dans la couche d'ozone? Puisque tu consacres un encadré hein, à une observation inquiétante, alors que le trou semblait se résorber depuis quelques dizaines d'années, la tendance inverse est en train d'être observée.
Alors, on ne sait pas encore précisément si les activités spatiales contribuent à ce fameux trou dans la couche d'ozone, mais les scientifiques le supposent et le supposent de plus en plus, et ça inquiète même des agences nationales hein, en France qui se penchent vraiment sur la question. Alors, ça vient de quoi? Ça vient du fait que depuis le protocole de Montréal, qui date de la fin des années 80, si je ne me trompe pas, certains gaz à effet de serre, notamment les CFC, ont été interdits ou très limités parce qu'ils contribuaient, ils avaient été analysés comme les principaux contributeurs au trou dans la couche d'ozone. Et depuis, le trou dans la couche d'ozone se résorbe tranquillement, mais sûrement, et c'était très rassurant. Sauf que depuis très peu de temps, on analyse des effets inverses. Le trou de la couche d'ozone semble s'agrandir alors un tout petit peu, c'est très léger, notamment au pôle Nord. Ça a été remarqué, je crois, par l'Agence américaine d'études atmosphériques et océaniques, si je ne me trompe pas. Pour l'instant, pas d'inquiétude majeure, les perturbations ne semblent pas plus fortes que ça et le trou dans la couche d'ozone ne semble pas trop élevé, sauf que tout le monde s'inquiète, à savoir que si les activités spatiales augmentent, ce que tous les plans d'Elon Musk notamment disent, c'est que ça va être le cas. Si on passe à 1000 lancements par an, là, le trou dans la couche d'ozone pourrait sincèrement s'agrandir et évidemment, on aurait encore plus de problèmes que le réchauffement climatique actuel parce que là, on parle quand même d'impact immense sur la planète et sur la vie.
Bon, on a bien déprimé tout le monde déjà, hein, avec tout ce que tu nous as dit. On va essayer de voir les choses du bon côté. Est-ce que certaines fusées, peut-être Ariane 6, hein, Cocorico, sont plus écologiques ou en tout cas plus propres que d'autres?
Alors oui et non. Si on regarde Ariane 6, en effet, elle est propulsée à l'hydrogène et en tout cas au sol, c'est clair, l'impact est assez peu signifiant. En revanche, dans la haute atmosphère, Ariane 6 continue d'émettre des particules que sont les particules d'alumine. C'est pas neutre. Évidemment, par rapport à Soyuz, Falcon 9, Long March, qui eux fonctionnent au kérosène ou dérivés de kérosène et qui émettent des suies dans la haute couche de l'atmosphère, ça n'a rien à voir. Un chiffre que je vous ai pas donné, mais selon des chercheurs, un kilo de suie émis dans la haute atmosphère, donc celle où on ne vit pas, c'est 500 fois plus réchauffant qu'un kilo de suie émis dans la troposphère, là où on vit. Ça donne tout de suite un petit peu quand même l'échelle. C'est assez important. Néanmoins, il y a de nouveaux types de fusées qui sont en développement aujourd'hui, qui sont même déjà testées. C'est le cas de la Starship Super Heavy d'Elon Musk et de SpaceX. Et c'est le cas aussi de Ariane Next. Et elles vont être propulsées avec un mélange de méthane et d'oxygène. C'est les nouvelles recherches qui sont là-dessus. Et en effet, là encore, impact écologique moindre. Sauf qu'elles continueront toujours d'émettre des suies et des particules d'alumine dans la haute atmosphère, avec des ordres de grandeur quand même bien moins élevés selon ce qu'on nous dit, parce que pour l'instant, en plus, les bilans carbone n'ont pas été bien faits, donc c'est encore quand même à prouver. Et ensuite, ces fameuses fusées nouvelle génération, elles sont pas là tout de suite. Elles sont en test. Au fur et à mesure, elles vont remplacer quelques lanceurs, mais c'est des temps industriels longs. On parle de 20, 30 ans, le temps que vraiment les flottes soient refaites. 20 ou 30 ans, on a le temps quand même de faire bien du mal à la planète.
Bon, depuis le début de l'émission, on parle de décollage, de vol, mais on oublie quand ça se passe mal, à savoir les explosions, à l'image des deux derniers lancements de Starship, mais aussi les satellites qui se désintègrent dans l'atmosphère. Est-ce qu'on connaît leur impact?
Sur les purs échecs, je ne sais pas trop, mais en tout cas, faut savoir qu'un satellite a une durée de vie limitée. Aujourd'hui, elle serait peut-être entre 5 et 10 ans. Et puis alors demain, quand l'espace, enfin en tout cas la basse couche de l'espace sera remplie encore plus de satellites, la durée de vie peut-être sera de 2 ans, puisque vu qu'il y aura plein d'impacts entre eux, ça va diminuer tout ça. Donc en effet, du coup, ça fait beaucoup de déchets dans l'espace. Là, on n'a pas trop de données sur ce que ça peut faire à l'espace noir au-dessus de nos têtes. Mais en revanche, beaucoup d'engins, et notamment les engins européens qui sont contrôlés pour ça, rentrent dans l'atmosphère. Il y a des rentrées atmosphériques pour pas que ça reste justement au-dessus de la Terre. Mais ces rentrées dans l'atmosphère, provoque là encore des émissions. Ça peut être des émissions selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, ça peut être des émissions de lithium, ça peut être des émissions de cuivre, je cherche, et d'aluminium. Pour l'instant, on n'observe pas de perturbations majeures, mais c'est très, très observé par les agences climatiques notamment, par les centres d'observation du climat et puis de météorologique tout simplement. Mais ils ont tous prévenu, et lors d'un congrès, je crois que c'était l'année dernière, donc c'est très récent, qu'avec l'augmentation des vols prévus, les impacts allaient être certainement très conséquents. Ils en sont sûrs, ils n'en doutent même pas. On ne sait pas exactement lesquels, mais apparemment, ce sera conséquent. Donc là encore, on n'a pas forcément de quoi se réjouir.
Bon, je vais être franc, j'ai quasiment plus de place sur ma calculette à bilan carbone entre la production des ergols, la production de la fusée, la clim, mais aussi tous les gaz qui sont relâchés dans les différentes couches. Se pose quand même la question, une fois qu'on sait tout ça, de comment on peut envisager sérieusement une aberration écologique comme le tourisme spatial.
Bah alors, selon mon enquête et puis même selon moi tout court, on ne devrait pas du tout l'envisager. Sauf à écrire un nouveau scénario de film fantastique, là ça peut être sympa, mais à part ça, je pense pas. Je vais quand même donner un chiffre qui va faire écho chez tout le monde, je pense. Un touriste qui se rendrait sur la Station Spatiale Internationale, laquelle se trouve très peu au-dessus de nos têtes, en fait. C'est vraiment beaucoup plus près que la Lune ou plus près que Mars, par exemple, où on envisagerait, Elon Musk en tout cas, d'aller plus tard. Juste ça, un voyage vers la Station Spatiale Internationale d'un touriste, il émettrait 650 tonnes de CO2 équivalent. C'est énorme et ça prend même pas en compte les émissions dans la haute atmosphère, puisque aujourd'hui, on les prend pas en compte. Et ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accord de Paris, il dit que normalement, si on veut pas réchauffer plus le climat, toute personne devrait ne pas émettre plus de 2 tonnes de CO2 équivalent par an. On calcule 650 tonnes, ça veut dire qu'un touriste qui part demain vers l'ISS émettrait pour plus de 300 ans ses émissions acceptables. Dans ces conditions-là, le tourisme spatial, c'est pas juste quelque chose de rigolo pour les plus riches, c'est une véritable aberration et ça devrait pas être développé plus que ça.
Il y a quand même une parade. Hein. On peut parler de tourisme spatial light, puisque tu évoques dans ton dossier l'équivalent d'un SUV spatial. Hein. En quelque sorte, c'est des super avions qui permettent de faire des vols suborbitaux, donc beaucoup plus bas que si jamais il fallait atteindre la Station Spatiale Internationale. Là, cette fois, on est plutôt autour de 30 à 40 tonnes de CO2 par passager par vol. Au-delà de ça, hein, puisque là, on reste quand même sur un bilan carbone de 15 à 20 ans par rapport à l'accord de Paris. Donc, ça reste n'importe quoi. Ça pose la question plus largement de l'encadrement législatif, hein, de la loi autour du tourisme spatial. Est-ce que quelque chose est prévu ? Est-ce qu'on peut l'encadrer ?
Alors, à ma connaissance, rien n'est prévu pour l'heure. Et je pense que la question, c'est même pas d'encadrer seulement le tourisme spatial, c'est d'encadrer tout court l'industrie spatiale, les activités spatiales au sens large. Parce qu'en fait, il faut quand même bien se reposer la question. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intérêt du spatial dans l'observation de la Terre, dans la prévention des événements climatiques graves, l'observation de l'acidification des océans, enfin bon, tout ce qui est lié au réchauffement climatique, à l'analyse de la biodiversité, etc. Et c'est vrai, ça sert énormément à l'analyse du climat, aux scientifiques qui sont portés sur la protection de la biodiversité et sur la lutte contre le réchauffement climatique. Sauf qu'on parle de quelques satellites d'observation de la Terre qui sont envoyés, c'est quoi ? C'est 3 par an ? C'est quelques-uns, enfin ça n'a rien à voir avec la proportion. Et tout le reste de l'activité spatiale, Elon Musk compris, donc on aura compris, mais aussi beaucoup les Chinois, il faut pas l'oublier, et bientôt les Indiens, c'est du satellite de communication ou de télécommunication, et on parle pas du tout des armées, on parle vraiment d'autre chose. Et puis on parle encore moins de tourisme, parce que là le tourisme est très peu développé, il y a eu 2 ou 3 vols, c'est tout, donc pour l'instant on n'en parle même pas. Donc en fait, pour l'instant, il faut surtout se poser la question de est-ce qu'il faut pas arbitrer, mais vraiment de manière internationale, avoir une réglementation internationale sur les activités spatiales. Et c'est notamment ce que propose le collectif Pour un réveil écologique. J'ai pu interviewer certains membres. Ils ont publié un rapport là très très récemment sur l'impact écologique du spatial, principalement en France et en Europe pour leur part. Et ils ont fait 12 propositions, 12 leviers d'action pour essayer de réduire cet impact écologique et de mieux le comprendre. Alors d'abord, ils poussent à avoir plus d'études scientifiques sur le sujet, vraiment très poussées, parce que pour l'instant, c'est quand même assez limité. Faut quand même un petit peu se rendre compte un peu mieux des ordres de grandeur. Et puis ensuite, ils appellent aussi, pourquoi pas, au fait de déterminer des quotas de lancement annuels et par pays pour éviter qu'on en arrive à 1000, 1500 lancements avec un impact écologique qui pourra arriver, je sais pas, à 5 ou 10% des émissions mondiales qui seraient liées au spatial, par exemple. Et puis alors, on parle même pas des débris dans la haute atmosphère et puis dans l'espace. Voilà, enfin, il y a tellement de questions qui se posent, ni même du trou dans la couche d'ozone, qu'a priori, quand même, il serait temps de réglementer tout ça et pas que le tourisme spatial. Pour l'heure, ça m'a pas trop l'air d'être à l'œuvre, mais apparemment, pas mal de gens commencent à pousser des portes. Donc, qui sait, dans quelques années.
Ça se gérerait chez qui ? C'est l'ONU qui doit intervenir dans ces conditions-là ?
Le problème, c'est que si une instance internationale ou alors plusieurs instances reconnues comme la NASA, l'Agence européenne, soit des très grandes agences qui comptent aujourd'hui, soit l'ONU, pourquoi pas, mais en tout cas, si c'est pas fait à l'échelle internationale, ça ne pourra pas compter. C'est-à-dire que l'Europe, qui déjà aujourd'hui, pour le coup, et ça c'est vrai, a un impact très minime dans ses activités spatiales, c'est quand même loin d'être les plus grandes activités spatiales par rapport aux Américains ou aux Chinois, ou même aux Russes d'ailleurs. Mais malgré tout, si que l'Europe fait ou si que les États-Unis font, puis qu'à côté, c'est comme toujours en fait. Le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à un résultat conséquent s'il n'y a pas des décisions qui sont prises internationalement. Et là, pour le spatial, plus que jamais, les décisions internationales sont nécessaires. D'autant qu'on compte tous sur les satellites des uns et des autres. Mais est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord justement pour ça? C'est la grande question.
Et puis, je vois mal, effectivement, les Américains ou les Chinois se serrer la ceinture si leurs copains ne font pas pareil.
C'est exact.
Eh bien, c'était une belle porte hein, qu'on a ouverte aujourd'hui. Alors, tout ce qu'on a vu en ouvrant la porte n'était pas très heureux. Mais en soi, le rêve spatial n'en reste pas moins beau. Seulement, voilà, il faut peut-être un peu l'encadrer et voir ce qu'on priorise dedans. Est-ce qu'on priorise les communications ou est-ce qu'on priorise l'exploration spatiale en vue peut-être d'un jour trouver un ailleurs sur lequel nous poser. J'espère qu'on aura l'occasion dans quelques années, hein, j'imagine, de refaire un point tous les deux ensemble. Merci beaucoup, Fanny.
Merci à toi, Romain.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 10 jours pour continuer à envoyer de la science dans tous les sens.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.